Radio Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Cinquante-et-unième session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse, la RDC est résolument engagée dans la promotion des droits de l'homme, a dit Albert Fabrice Pella, ministre congolais des droits humains. Et pour Mme Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, la RDC continue à renforcer son dispositif législatif et à améliorer ses pratiques dans le domaine des droits de l'homme. Et puis, vente des blocs pétroliers par la RDC, John Kerry pense qu'il faut maintenir l'équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et la création d'emplois. Il craint que la dite vente brise cet équilibre. Enfin, les manifestations contre la MONUSCO et les services de sécurité ont servi pour l'infiltration de l'ennemi dans la ville de Butembo. C'est le porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord qui les déclare. Capitaine Anthony Mualushai est notre invité dans cette édition du journal. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans la promotion des droits de l'homme dans une approche holistique. Cette déclaration est du ministre des Droits humains hier mardi à la 51e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Albert Fabrice Pella cite pour preuve l'élaboration, voire même l'examen de certaines lois importantes à l'Assemblée nationale. C'est le cas notamment, dit-il, de la proposition de loi sur l'accès à l'information, de celle portant protection des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que de la proposition de loi sur les manifestations publiques. On écoute le ministre Albert Fabrice Pella.
Aussi des lois importantes pour l'implémentation effective de la justice transitionnelle dans notre pays, notamment sur les piliers réparation. Nous citons la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que les décrets portant création d'un fonds de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves de droit international et de droit international humanitaire. FONAREV en sigle, adopté lors du dernier conseil des ministres, c'est-à-dire le vendredi passé. Nous sommes convaincus que la communauté, tant locale qu'internationale, voit à quel point cette question des victimes de conflits armés, de la recherche de la vérité, de la justice, des réparations, des garanties de non-répétition et de vetting est au centre des préoccupations, des objectifs du chef de l'État et de tous les gouvernements, parce qu'elle constitue le seul moyen de lutter contre l'impunité des seigneurs de guerre, des dignitaires du pays mis en cause et de réduire toutes les tensions entre les communautés.
Intervenant également à cette 51e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse, la patronne de la MONUSCO a souligné que la RDC continue à renforcer son dispositif législatif et à améliorer ses pratiques dans le domaine des droits de l'homme. Madame Bintou Keïta a cependant précisé que, malgré les solides avancées, la situation reste préoccupante, notamment dans l'est du pays. On écoute Madame Bintou Keïta.
Dans le domaine de la justice transitionnelle, nous avons continué d'appuyer les autorités nationales pour la mise en œuvre du processus à travers le pays. Des consultations populaires ont été lancées dans 7 provinces et les sensibilisations se poursuivent, à la fois dans les provinces affectées par le conflit et à l'ouest du pays. Je réitère mon appel au population congolaise à s'engager massivement à participer à cet exercice, de prêter leur voix et d'exprimer leurs aspirations en matière de vérité, justice, réconciliation et des garanties de non-répétition pour réponse durable aux causes du conflit. Une mise en œuvre rapide de la justice transitionnelle simultanément au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS permettra de se tourner résolument vers la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de tous les Congolais. Bien que de solides avancées ont été enregistrées depuis le dernier dialogue interactif, la situation continue d'être préoccupante, en particulier en raison de la persistance de l'insécurité à l'est du pays.
C'est un dossier signé Alain Hirung. Autre nouvelle, le conseiller du chef de l'État en charge de la culture, art et affaires religieuses a séjourné dans la ville de Bandundu, chef de la province du Kwilu, du dimanche au lundi 3 octobre 2022. L'objectif de sa mission, c'est notamment pour s'enquérir de la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut ces derniers temps dans cette province. À l'occasion, Théo Tshilumba-Wakabeya a apporté au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, une assistance humanitaire aux déplacés de Kwamout qui sont à Bandundu, à qui il a remis une enveloppe consistante et a également volé au secours d'autres personnes en difficulté. Irène Mboma nous fait le point.
Après avoir visité et assisté tous les déplacés de Kwamout basés au marché de Malebo à Bandunduville, le conseiller principal du chef de l'État en matière de culture, art et affaires religieuses s'est rendu lundi à l'hôpital général de référence de Bandundu, où il a aussi visité les malades, notamment les blessés, victimes des atrocités de Kwamout, les femmes césarisées et autres accouchées pour qui il a payé toutes les factures. Théo Tshilumba-Wakabeya s'est dû touché par la situation que traverse le Kwilu ces derniers temps.
C'est une situation qui nous touche à cœur et au niveau de la population en général et des déplacés et ici à l'hôpital de Bandundu. Donc je prends tous les problèmes des gens, je vais les transmettre à qui de droit.
Satisfaites, les femmes césarisées ont exprimé leur gratitude. J'ai totalisé un mois ici. Dans ce pavillon, toutes nous avons des difficultés financières. Que Dieu bénisse Tshisekedi. Maintenant, nous sortons de l'hôpital. Notez qu'à Bandundu, le conseiller principal du chef de l'État a aussi remis symboliquement un lot de 1000 bancs pupitres aux écoles de la place et de 100 chaises d'écritoire à l'université de Bandundu, dont du président de la République. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Il faut maintenir l'équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et la création d'emplois dans le bassin du Congo, propos de l'envoyé spécial du président américain pour le climat. John Kerry craint que la mise en vente aux enchères d'un certain bloc pétrolier ne puisse briser cet équilibre. Il s'exprime ainsi lors d'une conférence de presse tenue ce mardi ici à Kinshasa, en marge des travaux de la pré-COP 27. John Kerry est au micro de Paul Matendo.
Two questions there really, employment and what do we think about the...
Oui, nous ne suggérons pas que l'exploitation de ressources naturelles ne peut pas se faire concurremment à la création d'emplois, à de bonnes politiques économiques, à un renforcement de l'économie. Ce n'est pas ce que nous suggérons. Il faut que cet équilibre soit maintenu, mais dans certaines régions où ces blocs ont été mis en vente aux enchères risquent de briser cet équilibre. Et nous travaillons. Il y a un autre travail qui a été mis, le secrétaire d'État américain en a parlé quand il était là, nous travaillons aussi avec les autorités congolaises, l'RDC, j'ai parlé avec le Premier ministre, et c'est ce que aussi que nous comptons intimer au président Tshisekedi, c'est que ces lieux sensibles, ces régions sensibles, bien sûr, c'est important de créer des emplois, mais il faut que cet équilibre soit maintenu autant possible.
When he was here with the president, and which is now ready to engage.
Et puis, Caravane africaine pour le climat, c'est un ensemble d'une centaine de mouvements communautaires, organisations de la société civile et de jeunesse de plus de 23 pays africains qui font le tour du continent pour réclamer des mesures concrètes afin d'affronter le changement climatique. Ceci avant la tenue de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. À l'occasion de l'ouverture de la pré-COP ici à Kinshasa, les délégués de cette caravane ont présenté ce mardi, lors d'une visioconférence, leurs messages et demandes concernant notamment le financement climatique pour l'adaptation des populations et la prise en charge des pertes et dommages. Les 23 pays participants, dont la RDC, attendent de leurs chefs d'État et de gouvernement qu'ils défendent les intérêts de leur propre population. D'autres détails avec vous, Billy Ivan Lutumba.
Dans sa déclaration commune dévoilée ce 4 octobre, la caravane demande aux chefs d'État et de gouvernement de soutenir toute proposition des lois et textes réglementaires et leur application pour la sécurisation des textes des communautés afin de développer collectivement des terroirs en agroécologie paysanne, solutions agricoles pour une justice sociale, alimentaire et climatique. Elle réclame aux parties prenantes de l'accord de Paris d'exiger avant la COP 27 aux pays riches de s'engager à respecter leurs promesses de fournir et de mobiliser 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2025. Ils doivent donc notamment s'engager à augmenter les financements publics et expliquer comment ils vont compenser les déficits accumulés au cours de la période 2020-2025 avant d'atteindre le niveau des 100 milliards de dollars. Aux États riches et pollueurs responsables du réchauffement climatique, écrivent-ils, de créer un mécanisme d'allègement de la dette souveraine comme moyen de restructurer ou d'annuler les dettes de manière équitable avec tous les créanciers comme moyen de réaliser la justice climatique. La caravane réclame aussi la mise en place d'un mécanisme de financement des pertes et dommages pour faire face aux impacts climatiques dévastateurs subis par les pays vulnérables au climat et les communautés pauvres. Les pays riches doivent donc accepter de financer ce mécanisme lors de la COP 27, soutient-elle.
Autre nouvelle, la deuxième campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique gratuite organisée par le centre médical Diamant de Lubumbashi appartient désormais au passé depuis le week-end dernier. 16 enfants ont été opérés pendant 2 semaines et nombreux d'entre eux ont déjà quitté l'hôpital. Une satisfaction pour leurs parents dont certains ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre la ville de Lubumbashi. Le point avec Jean Gandou.
Lundi, quelques parents sont passés avec leurs enfants pour les contrôles après les interventions chirurgicales en plein cœur. C'est au sourire que Émeric contemple sa fillette de 6 ans allongée sur les lits pendant que Dr Nourine s'occupe d'elle. Plein de joie, Émeric oublie le calvaire qu'il a enduré pour atteindre la ville de Lubumbashi à temps afin de donner un espoir de vie à Marie, sa fillette.
Pour la santé de ma fille, j'ai réuni peu des moyens que j'avais. J'ai payé l'avion pour l'enfant, mais moi j'ai pris la moto de Mbujimaï jusqu'à Kolwezi. Arrivé à Kolwezi, j'ai pris le bus jusqu'ici à Lubumbashi. Je suis très heureux. Pour l'instant, je vois l'enfant est en bonne santé.
Au même moment, dans la salle d'attente, un autre parent, visiblement ému en voyant son fils retrouver la joie de vivre, car il avait perdu tout espoir de voir son fils recouvrir sa santé et se mouvoir comme d'autres enfants.
C'est un enfant qui est né avec une malformation cardiaque. C'est vraiment la pire des choses qu'on a pu supporter depuis sa naissance. Il va bien, il marche. Il joue aussi avec ses amis. Là, nous sommes venus pour les contrôles.
Pour la responsable de la Fondation Centre Médical Diamant, tout s'est bien passé et désormais tous les regards sont tournés vers la troisième campagne qui aura lieu l'année prochaine. Une fois encore, le Centre Médical Diamant sollicite la contribution du gouvernement congolais et des personnes de bonne volonté pour la prise en charge de beaucoup d'enfants souffrant des malformations cardiaques congénitales qui sont sur la liste d'attente. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kasaï central, le chef de division provinciale de l'intérieur appelle les institutions d'enseignement supérieur à ne pas accepter les attestations de naissance amenées par les candidats étudiants à l'inscription. L'État congolais ne reconnaît actuellement que les actes de notoriété supplétifs à l'acte de naissance, a indiqué ce mardi Pascal Dibondo. Il dit avoir constaté que différents établissements ont démarré les inscriptions pour les étudiants en exigeant également dans les dossiers les attestations de naissance. Les Bourgoumains ont été saisis officiellement pour ne pas continuer à livrer ces documents. Pascal Dibondo est au micro de François Kadima.
L'attestation de naissance, ce n'est pas un document que l'État congolais reconnaît. Les documents reconnus par l'État congolais pour une personne adulte, surtout un étudiant, c'est l'acte de notoriété supplétif à l'acte de naissance. Donc ils doivent exiger à ceux qui veulent devenir étudiants donc de mettre dans leur support ce qu'on appelle l'acte de notoriété supplétive à l'acte de naissance. Les documents reconnus par l'État congolais pour un adulte, d'abord tout commence par l'acte de naissance. La personne dont l'âge varie de 0 à 17 ans a droit à un acte de naissance. Alors c'est dans deux étapes. Gratuitement, c'est lorsque l'enfant qui naît dont l'âge varie de 0 à 90 jours. Cela a droit à obtenir gratuitement l'acte de naissance. À partir de 91 jours jusqu'à 17 ans, il a droit d'obtenir un acte de naissance moyennant un jugement supplétif établi par le tribunal pour enfants. Lorsque pour le cas d'espèce de ceux qui doivent devenir des étudiants, donc ils doivent glisser dans leurs documents l'acte de notoriété supplétive à l'acte de naissance établi par le tribunal pour enfants moyennant un jugement supplétif bourgmestre. Nous les avons rappelés à l'ordre pour qu'ils ne puissent plus livrer les attestations de naissance.
Notons que plusieurs universités et instituts d'enseignement supérieur ont déjà démarré les inscriptions pour les nouveaux étudiants. Les difficultés et les possibilités d'accès universel à l'information à l'ère du numérique, c'est autour de ce thème que l'UNESCO a organisé une matinée scientifique ce mardi 4 octobre au Centre Wallonie-Bruxelles. Initiée à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, célébrée le 28 septembre de chaque année, professeurs et journalistes ont animé cette rencontre. C'est notamment le cas du représentant de l'UNESCO en RDC, le professeur Isaias Barreto de Rosa et Thérèse Kankou, chef de programme de la radio Bana Okapi. Objectif, développer un cadre de régulation modèle pour les plateformes numériques afin de garantir l'information en tant que bien public tout en protégeant la liberté d'expression. Un reportage signé Kelioka.
La journée internationale de l'accès universel à l'information était célébrée par l'UNESCO dans la salle de spectacle du Centre Wallonie-Bruxelles avec un accent particulier sur l'information numérisée. Initiée par l'UNESCO, la journée vise entre autres à protéger et promouvoir l'accès à l'information en tant que droit fondamental de l'être humain. Isaias Barreto d'Arosa, représentant de l'UNESCO en RDC.
Nous avons parlé donc de l'accès à l'information, nous avons parlé surtout de l'intelligence artificielle et de la gouvernance électronique, qui sont des thèmes donc de cette année nous avons pu échanger à ce sujet pour parler sur la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique en intelligence artificielle.
Les participants plus en plus confrontés à un accès numérique de l'information ont affirmé avoir beaucoup appris.
C'était une rencontre très bénéfique et on a eu à découvrir plutôt de choses qu'on ne connaissait pas avant et ça a vraiment contribué à notre expérience.
Ici est de noter que l'UNESCO organisera une conférence mondiale en Ouzbékistan sur le thème intelligence artificielle, gouvernance en ligne et accès à l'information à l'occasion de l'édition 2022 de la Journée internationale de l'accès universel de l'information.
Actualité internationale.
En international, la signature d'un accord énergétique entre la Libye et la Turquie suscite un tollé régional. Selon plusieurs observateurs, ce nouvel accord initié par Ankara pourrait balayer d'un revers de main tous les efforts fournis ces derniers mois pour un rapprochement entre la Turquie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, mais aussi entre la Turquie et les camps de l'Est libyen dirigés par Khalifa Haftar. En Libye, la signature de l'accord contesté a semé de nouvelles divisions dans le pays, y compris au sein du camp de l'Ouest.
L'invité.
Les manifestations contre la MONUSCO et les services de sécurité ont servi pour l'infiltration de l'ennemi dans la ville de Butembo. C'est le porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord qui le déclare à Radio Kapi au lendemain de l'explosion d'une bombe artisanale lundi soir dans une salle de cinéma à Butembo. Le capitaine Anthony Mwalusha demande ainsi à la population du Grand Nord Kivu de prendre conscience de la menace terroriste et de collaborer avec les services de sécurité au lieu de leur rendre la tâche difficile à travers des manifestations. Le capitaine Anthony Mwalusha est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar. Suivez.
Capitaine Anthony Mwalusha, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Il y a eu explosion d'une bombe artisanale à Butembo lundi soir. Est-ce que vous avez un bilan officiel à ce stade?
Officiellement, nous avons 6 blessés et la majorité d'entre ces blessés de jeunes qui étaient dans une salle de cinéma.
Il y a des sources sur place qui parlent des 10 blessés.
Officiellement, c'est 6 qui ont été amenés dans des structures sanitaires pour leurs soins.
Alors, explosion d'une bombe à Butembo, c'est une deuxième après celle qu'il y a eu devant le bureau communal de Boulengera il y a plus ou moins un mois. Et juste ce dimanche, il y a eu 2 autres engins explosifs qui ont été découverts par des services de sécurité dans la même commune de Boulengera. Et de plus en plus, ces signaux terroristes se multiplient à Butembo. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que les services de sécurité sont en train de travailler et de contenir l'ennemi. Et quand l'ennemi est coincé dans une zone, l'ennemi préfère aller dans une autre. Vous vous rappelez que l'année passée, il y a eu des cas similaires dans la ville de Beni où nous avons même compté des morts. Aujourd'hui, l'ennemi à migrer vers non seulement dans la ville de Butembo mais aussi dans la chefferie de Bachou. Cela veut dire que la ville a été menacée depuis très longtemps et nous avons alerté la population d'être trop vigilante, mais qu'à cela ne tienne, nous avons été mal compris par certains de nos compatriotes qui ont organisé des manifestations contre la MONUSCO, contre les services de sécurité, et entre temps, notre ennemi était en train de nous infiltrer pendant que nous, on s'est disputé entre Congolais.
Depuis le début des massacres à Beni, dit-on, 8 ans aujourd'hui, la ville de Butembo a toujours été épargnée jusque depuis 2 ou 3 mois. Il y a la chefferie de Bachou que venait de citer qui sert des liens entre l'ancien bastion des ADF Mwalika dans le parc national de Virunga et la ville de Butembo. Et ça, les services de sécurité le savent, l'armée le sait. Est-ce qu'il y a eu défaillance de la part de ces services pour permettre à ce que l'ennemi quitte le territoire de Beni dans sa partie sud, traverse la chefferie de Bachou pour atteindre la ville de Butembo, qui jusque-là a été épargnée?
Non, je ne dirais pas qu'il y a eu défaillance au sein des services de sécurité. Il faut savoir d'abord, quand vous dites que la ville de Beni était épargnée,
la ville de Butembo
épargnée par rapport au massacre, je dirais oui, mais n'oublie pas que la majorité des collaborateurs qu'on a arrêtés étaient des originaires de Butembo, c'est-à-dire sur le plan opérationnel du côté ennemi, c'était vraiment inutile d'attaquer la ville qui fournissait les collaborateurs.
La donne a changé.
Aujourd'hui, avec nos sensibilisations, la population a compris et il y a même certains collaborateurs qui ont accepté de ne plus collaborer avec l'ennemi dans la ville de Butembo. Et quand l'ennemi a vu que les collaborateurs ont tourné le dos contre lui, effectivement, ils ont commencé maintenant à attaquer cette ville.
Alors, est-ce que la menace, comme ça semble s'orienter dans la ville de Butembo actuellement, la menace terroriste, et c'est pour autant que à Beni, la population doit baisser sa garde.
Non, c'est vraiment une erreur si on faisait ça. La population congolaise dans son ensemble doit comprendre que la menace, c'est régionale. Parce que même les pays frontaliers sont concernés. Nous sommes appelés à être trop vigilants, que ce soit à Beni, à Butembo, à Kasindi, dans le Lubero, qui n'est pas encore touché jusque-là par les ADF, mais du moins qui est touché par
les groupes armés locaux.
Les groupes armés locaux, et personne ne peut se dire qu'il est épargné.
Pour terminer, mon capitaine, le territoire de Mambasa, qui partage la limite avec Beni, d'ailleurs l'axe Biakato, qui est contrôlé par les opérations Sokola 1, aujourd'hui est devenu problématique avec l'activisme des rebelles ADF. Et il y a l'axe Eringeti-Komanda, aussi problématique, ça n'a jamais cessé. L'axe Kasindi-Beni, toujours problématique. On est dans une sorte de blocus régional. Quel message de réconfort ou de garantie vous adressez à la population par rapport à cet aspect?
Au-delà des opérations militaires amorcées par l'armée loyaliste, la population doit nous accompagner.
Et que dites-vous des alertes de la population qui ne sont pas suivies quelquefois par l'armée?
Les alertes de notre population sont suivies par l'armée et exécutées même. Les opérations militaires nécessitent d'abord la discrétion et aussi la surprise. Et comment vous voulez qu'il y ait discrétion quand quelqu'un alerte dans le média, quand quelqu'un alerte dans les réseaux sociaux?
Capitaine Anthony Mualushai, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal, mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée et supervisée par Alain Irung Mushinj. Merci pour votre particulière attention.